Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. La République démocratique du Congo est en train de vivre la première transmission pacifique du pouvoir de son histoire. Le tout nouveau chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accède à la magistrature suprême en tant que 5e président de la RDC. Il prend le relais du président sortant Joseph Kabila Kabange à la tête du plus vaste pays d'Afrique subsaharienne. M. Tshisekedi devra choisir son premier ministre au sein des proches du président sortant qui ont conservé une large majorité à l'Assemblée lors des élections présidentielles et législatives du 30 décembre. Les États-Unis se sont joints à l'Union africaine, l'Union européenne et à la France pour manifester leur volonté de travailler avec Félix Tshisekedi, le tout nouveau leader de la République démocratique du Congo. Washington a également salué le président sortant Joseph Kabila qui cède le pouvoir pacifiquement pour la première fois depuis l'indépendance de l'ex-Congo belge en 1960. Pour en parler, Eric Maniakiza a joint dans la capitale américaine l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Herman Cohen, un ancien ambassadeur au Congo.
Je crois que la déclaration américaine est très sage. Pour la première fois dans l'histoire du Congo, il y a un changement de régime qui a été fait par une élection. Donc, je crois que maintenant, il y a un espoir que le peuple congolais aura des bénéfices de bonne gouvernance et une réduction de pauvreté. Bien sûr, l'élection avait des problèmes, mais ce qui est important, c'est que le président Kabila est parti et il y a un nouveau président qui a promis qu'il va tout faire pour des réformes économiques et politiques. Donc, les Américains ont raison.
Qu'est-ce que le nouveau président peut attendre des États-Unis?
Je suis sûr que les Américains vont tout faire pour aider, pour qu'il réussisse. Il a un grand travail devant lui, parce que pendant 15 ans maintenant, il y avait la corruption. La plupart des revenus a disparu dans les poches privées. Il y a des gens du Kabila qui sont dans les ministères. Il faut faire des changements. Donc, il a un grand travail devant lui. Et donc, l'Amérique peut l'aider avec les conseils économiques, par exemple. Et aussi des conseils sur la bonne gouvernance. Et je suis sûr que le USAID, le département d'État, être à côté du président Tshisekedi quand il fait des réformes.
Qu'est-ce qui pourrait compromettre les relations?
Oh, bien sûr, si le président Tshisekedi commence à faire des bêtises, c'est-à-dire pour, par exemple, le revenu des exportations de minerais, si tout l'argent n'entre pas dans le budget, un grand pourcentage entre dans les poches privées, ce sera mauvais, ce sera la même chose que Kabila. Mais je suis sûr qu'il ne va pas faire ça, mais il y a toujours un danger.
Il y a la question sécuritaire et notamment des groupes armés qui opèrent dans l'est du Congo. C'est une autre paire de manches.
Bien sûr, bien sûr. Et je crois qu'il y a des gouvernements à l'autre côté des frontières qui aident ces milices. Et il faut que président Tshisekedi commence une diplomatie envers le Rwanda, envers l'Ouganda, pour que tout ça cesse et toute aide aux milices qui sont là pour des raisons d'affaires. Ils volent des minerais surtout. Et il faut que président Tshisekedi commence une diplomatie pour dire aux voisins qu'il n'est pas contre eux, mais il veut une coopération pour que tout le monde puisse tirer des bénéfices des minerais et des autres produits des sols. Il faut faire une diplomatie envers le Burundi pour les mêmes raisons que je viens de citer.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Archipel des Comores dans l'océan Indien, un total de 20 candidatures, dont celle du chef de l'État sortant Azali Assoumani, ont été déposées à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante des Comores, en vue de l'élection présidentielle anticipée du 24 mars. Les prétendants avaient jusqu'à mercredi minuit pour déposer leur candidature. Sur ces 20 noms, seuls 5 sont soutenus par un parti politique. Tous les autres candidats se présentent sous l'étiquette d'indépendant. Le président Azali est donné grand favori du scrutin face à une opposition décimée et incapable de s'accorder sur un candidat unique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Sénégal, les sections jeunesse de deux coalitions de l'opposition ont lancé un appel à manifester vendredi à Dakar, alors que la tension monte à un mois de l'élection présidentielle dont ont été écartés les deux principaux opposants au président sortant Macky Sall, candidat à la réélection. Nous sommes déterminés à mener ce combat malgré les intimidations et nous ferons face aux forces de l'ordre, a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi Toussaint Manga, secrétaire général de l'Union des Jeunesses Travaillistes Libérales, l'UJTL, et député du Parti démocratique sénégalais, le PDS. Le candidat de son parti, l'ancien ministre Karim Wade, tout comme l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, ne figure pas parmi les cinq noms validés dimanche par le Conseil constitutionnel pour la présidence du 24 février. Alors que le pouvoir affiche sa fermeté et dénonce les appels à l'émeute, des responsables musulmans et catholiques multiplient les appels à la retenue et au dialogue. Soudan, de nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui dans le pays, dont une marche vers le palais présidentiel à Khartoum pour réclamer le départ du président Omar al-Béchir au pouvoir depuis près de 30 ans. Depuis le 19 décembre, le Soudan est en proie à un mouvement de contestation déclenché par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. La répression gouvernementale a suscité des critiques à l'étranger, mais le président Omar al-Béchir a imputé les violences à ce qu'il a qualifié de conspirateur et il affirme que les forces de l'ordre n'ont tué aucun manifestant. Des ONG internationales de défense des droits humains comme Human Rights Watch et Amnesty International évoquent quant à elles au moins 40 morts dans la répression des manifestations, dont des enfants et du personnel médical. Crise migratoire, la fermeture d'un des plus grands centres d'accueil de migrants d'Italie a suscité mercredi l'indignation d'une partie des habitants et de nombreux élus de la région. Le point avec Morgane Guiriec.
Annoncée avec un préavis de 48 heures, l'évacuation du centre, qui accueillait plus de 500 personnes, a commencé mardi à Castelnuovo di Porto, au nord de Rome. Hier, 75 migrants ont été transportés par autocar vers d'autres régions et la structure doit être totalement évacuée d'ici la fin du mois. On peut changer les politiques d'immigration, mais on ne peut pas jeter les gens comme ça dans la rue, s'est insurgé Riccardo Travaglini, maire de cette petite localité de 9000 habitants. L'annonce de la fermeture de ce centre d'accueil pour demandeurs d'asile est la conséquence de la nouvelle loi durcissant les règles de l'immigration. Ce texte, voulu par Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur et chef de file de l'extrême droite, a déjà aboli les permis de séjour pour personnes vulnérables, familles ou femmes seules avec enfants. Matteo Salvini estime que de tels centres coûtent cher et ne font qu'accroître la criminalité. Hier, il a une nouvelle fois justifié sa mesure, rappelant que c'est une intervention de bon sens qui fera économiser aux Italiens 6 millions d'euros par an sans enlever de droits à personne.
Actualité aux États-Unis maintenant, ici à Washington, républicains et démocrates votent aujourd'hui au Sénat sur deux textes concurrents pour tenter de sortir du shutdown, la fermeture partielle des administrations fédérales qui en est à son 34e jour, sans que ni le président Donald Trump ni l'opposition démocrate ne semblent prêts à céder. Le point avec Jean-Roger Bion.
Au cœur de l'impasse budgétaire paralysant une partie des administrations fédérales depuis plus d'un mois, s'élève le mur que veut Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Il réclame pour l'ériger plus de 5 milliards de dollars. Les démocrates qui sont contre cette initiative refusent de signer un compromis budgétaire sur cette base. Ce shutdown affecte quelque 800 000 employés fédéraux qui ne sont pas payés pendant cette impasse. Ce bras de fer entre le président Trump et la présidente démocrate de la Chambre des représentants a pris hier une tournure personnelle. Le président américain a concédé qu'il ne prononcerait pas mardi prochain devant le Congrès le traditionnel discours sur l'état de l'Union pour présenter son programme. Madame Pelosi insiste pour qu'il le fasse après la réouverture du gouvernement pour des raisons de sécurité. La paralysie politique à Washington a donc contraint Donald Trump à reporter sine die le discours présidentiel sur l'état de l'Union sans solution en vue pour sortir le pays du shutdown le plus long de l'histoire. Je ferai le discours quand le shutdown sera fini. Je ne recherche pas d'autres enceintes pour le discours sur l'état de l'Union parce qu'il n'y en a aucune qui puisse rivaliser avec l'histoire, la tradition et l'importance de la Chambre des représentants, a-t-il écrit sur Twitter mercredi en fin de soirée.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.